Notre collègue spécialiste des États-Unis, Valérie Beaudoin, est avec nous. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, on a eu un témoignage vraiment sur place de Minneapolis. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe ailleurs, notamment à Washington, avec Donald Trump, qui s'est... Est-ce qu'il s'est ramassé dans le bunker en passant, ou ça, c'est une fake news?
Là, oui, ça a l'air vendredi que ça a été confirmé. Il y a eu peur,
il y avait des manifs ou quoi?
En fait, c'est son service de sécurité qui a dit, écoutez, les manifestants sont de plus en plus près de la Maison-Blanche. On a votre sécurité à cœur. On va vous mettre dans le fameux bunker où, par exemple, Dick Cheney était pendant les attentats du 11 septembre. Alors, c'est vraiment dans des circonstances exceptionnelles qu'on peut mettre un président ou un vice-président, là.
Alors, ça a brassé dans les rues, mais là, c'est en train de se calmer. En tout cas, à Minneapolis, parle-moi un peu, si on regarde globalement, parce qu'il y a eu évidemment des manifs partout, si on le comprend, mais il y a malheureusement eu des excès de violence aussi partout. Alors, la situation au niveau des couvre-feux et de la violence dans le pays, ça ressemble à quoi?
Écoute, des couvre-feux, ça touche près de la moitié des États aux États-Unis, des douzaines de villes. Ça touche aussi la garde nationale et dans environ la moitié aussi des États. Alors, c'est pour vous dire à quel point la crise est répandue. C'est pas quelque chose qui est juste au Minnesota ou qui est juste dans ce secteur-là ou qui est juste au sud des États-Unis. C'est vraiment généralisé partout. Dans presque toutes les grandes villes américaines, il y a eu des manifestations. Oui, il y a eu de la casse, mais il y a eu aussi des manifestations pacifiques, surtout le jour ou en soirée, là, avant les couvre-feux. Et ça fait 6 jours que ça dure depuis, finalement, la mort de George Floyd. Alors, ce que les gens réclament, c'est non seulement d'ouvrir un dialogue pour arrêter ces inégalités raciales aux États-Unis et que cette violence policière envers les Noirs, parce que c'est pas le premier épisode malheureusement, c'est pas le dernier. Il y en a eu dans les dernières années, juste vous dire, Michael Brown, ça doit vous dire quelque chose, au Missouri, les émeutes de Ferguson, c'était en 2014. Ça avait été mis à saccage la ville. Il y avait eu un cri du cœur des résidents là-bas et il n'y a rien qui a vraiment changé depuis ce temps-là. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, on réclame ça et on réclame aussi que les 3 autres policiers qui ont été impliqués dans cette affaire-là, puis je vous ai entendu en parler en disant que ils étaient complices finalement, et c'est même ce que le chef de police a déclaré hier, que ces autres policiers-là étaient complices d'avoir tué George Floyd. Alors, on réclame eux aussi qu'ils soient condamnés, qu'ils soient arrêtés pour le meurtre de cet homme-là.
Est-ce que dans tout ça, là, il y a peut-être pas de réponse à ma question, là, Valérie, mais je regarde aller tout ça. Évidemment qu'on demande de la justice, on demande des sanctions contre les policiers blancs. Il faut sévir contre ces policiers-là, soit le meurtrier ou les complices. Mais mettons qu'on regarde la situation en haut, là. Tantôt, mon invité me disait, il y a des inégalités beaucoup, puis il y a du racisme, Minneapolis. Ailleurs, on voit énormément de gens dans la rue. Il y a des manifestants. La majorité, il faut le souligner, sont bien corrects et pacifiques, là. Mais il y a malheureusement la minorité violente. Mais mettons qu'on oublie les extrêmes. Les gens sont dans la rue, ils manifestent. Et moi, je suis un amateur d'histoire, mais j'essayais de comparer ça avec d'autres émeutes, d'autres incidents aux États-Unis dans les années 60-70. À la différence que, dans ces années-là, il y avait des leaders noirs qui prenaient des micros, qui donnaient un discours, qui avaient un agenda, qui avaient un programme, une vision pour améliorer les relations entre les communautés, tout ça. J'ai l'impression, là, il y a le mouvement Black Lives Matter, que je connais
Black
un peu.
Lives Matter.
Black Lives Matter, c'est quoi j'ai dit?
Lives.
Ah, excuse-moi.
Pas trop.
Je me suis trompé. Est-ce que, Valérie, il y a un leader chez ces gens-là? Y a-t-il un politicien ou une politicienne ou quelqu'un qui a un discours à dire, qui a des idées autres que on marche dans la rue? Puis là, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de marcher dans la rue de façon pacifique. Quand on est en colère, c'est correct. Est-ce qu'il y a un leader à quelque part?
Il n'y a pas un même leader qu'on avait à la Martin Luther King. Ouais, d'ailleurs, on compare beaucoup ce qui se passe en ce moment à 1968, quand Martin Luther King a été assassiné et qu'il y a eu une révolte partout au pays. On compare souvent les deux événements en disant que c'est jamais vu depuis cette époque-là. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs leaders, il y a plusieurs voix qui vont s'élever, qui vont sortir du lot. D'ailleurs, les enfants de Martin Luther King, on les voit souvent dans les médias parler de ce qui se passe, donner leurs commentaires. Il y a des leaders afro-américains qui proviennent d'églises, il y en a un peu partout. Il y a des politiciens aussi. Il y a beaucoup plus de politiciens aujourd'hui afro-américains qui sont élus, qui sont au Congrès, qui utilisent leur voix. Mais il n'y a pas personne, il n'y a pas une seule voix. Et même quand c'était Barack Obama qui était le président, premier président noir, il n'était pas capable lui non plus de faire une espèce d'unité parce qu'il devait plaire à tout le monde, ou peu importe la couleur de la peau. Alors non, il n'y a pas ce même leader-là. Là, ce qu'on voit, c'est plus un mouvement de groupe, ce qu'on appelle grassroots movement aux États-Unis, là, que ça part de la base, que ça part des gens dans la rue qui décident, eux, de se faire un peu justice. Et Black Lives Matter, c'est le premier qui nous vient en tête, mais il y a d'autres groupes aussi comme ça qui vont se greffer. Mais c'est vraiment, je dirais, c'est un mouvement citoyen. Plus qu'avant, c'était un mouvement d'un leader qui va inspirer les autres.
Et moi, je pense que ça manque un peu. C'est pas un reproche. Je répète, les citoyens en colère, marcher, aller dans la rue. Mais là, tu l'as dit, depuis 2014, Ferguson, puis avant ça, là, ça semble être la réponse. Il arrive une injustice, les citoyens descendent dans la rue, expriment leur colère, parfois de façon pacifique, malheureusement parfois de façon violente. Mais après, moi j'aimerais ça qu'il y ait autre chose un peu, qu'il y ait une discussion. Là, remarquez, on a un président aux États-Unis qui s'exprime par Twitter. Alors, bon, lui il envoie des tweets à gauche, à droite. Ses adversaires, on les entend pas énormément. Est-ce que tu penses, Valérie, que ça va alimenter, on est en année électorale, est-ce que ça va alimenter cette crise-là? Mm-hmm. Est-ce que ça va se transposer un peu dans le débat électoral?
Oui, je crois que ça va se transposer dans le débat électoral parce que là, on avait la crise de la COVID-19 qui était omniprésente aux États-Unis. On parlait que de ça. Et là, il y a toutes ces inégalités raciales-là qui sont là depuis longtemps. Et là, on se rend compte qu'il y a bien des gens qui se disent « Ah, je pensais que c'était réglé. » Non, c'est encore là. Ça se passe encore dans plusieurs villes. Et là, tu as Joe Biden qui est l'adversaire. Bon, c'est pas encore officialisé, mais on se dit que ça va être l'adversaire de Donald Trump qui se présente, lui, en étant l'allié des Afro-Américains, qui va être là pour défendre leurs droits et tout ça. Alors lui, il doit vraiment leur démontrer que si c'est lui qui est à la présidence, qu'il va vouloir changer les choses pour eux. On parle beaucoup qu'il pourrait choisir une potentielle vice-présidente afro-américaine, que ça pourrait aider à rallier ces gens-là qui ne sortent pas toujours voter. Ils n'ont pas voté pour Hillary Clinton, d'ailleurs. Ils ne sont pas tous sortis voter. Et Donald Trump, lui, en ce moment, il n'est pas présent. Il n'y a pas de leadership aux États-Unis. Et c'est pas en étant sur Twitter, en accusant les médias, en accusant un peu tout le monde de ce qui se passe en ce moment dans la société. Il n'y a pas d'appel à l'unité. Les mauvais, je vous dirais, les gens qui ont le côté pessimiste de la chose vont dire ça ne va pas lui nuire pour sa réélection. Au contraire, ça va alimenter une certaine base qu'il y a déjà, de laisser ça faire, l'Amérique se saccage dans un sens. Mais ce que les gens disent en ce moment, c'est où est le président? Où est le pilote dans l'avion? Il n'est pas là. Il n'y a pas d'appel à l'unité en ce moment.
C'est ça, un leader avec de quoi, avec un discours, une vision de quoi proposer. C'est pas normal qu'on en soit encore là. Ces images-là m'entrent encore dans la tête, là, mais c'est pas normal qu'en 2020, on en soit encore là avec un pays qui a tellement, qui a tout un passé derrière lui en plus. Fait que, mais bon, peut-être que la campagne électorale, tu le dis, peut-être entre Biden et lui, Biden va peut-être amener ça dans les débats, dans les discours, que ça va permettre une réflexion. Entre-temps, est-ce que du côté de la justice, là, je sais qu'on se concentre plus sur la politique, mais concernant les policiers puis les suites judiciaires, mon invité à Minneapolis disait qu'il y en a un qui a été arrêté, là, le policier qu'on appelle l'assassin, le meurtrier, mais les autres sont encore en liberté. Est-ce qu'il y a du nouveau dans les enquêtes, dans la façon dont on traite l'affaire?
Il devrait peut-être avoir d'autres accusations, non seulement pour le premier policier qui a été arrêté, parce qu'on parle d'homicide involontaire, mais ils ont dit dans leur conférence de presse qu'il pourrait avoir d'autres accusations plus sévères encore. D'ailleurs, c'est ce que réclame la famille et beaucoup de gens qui manifestent, d'avoir des accusations encore plus graves pour ce policier-là. Et les autres qui sont complices, même le chef de police, donc l'ancien patron de ces gens-là, a dit qu'ils étaient des complices parce qu'avec leur silence, avec leur inaction, ils ont tué George Floyd. Parce que si un des policiers avait dit « Écoute, là, lâche ton genou, là », là, ça va trop loin, ou qu'il avait appelé, il avait fait des manœuvres de réanimation ou autre chose.
Ben
peut-être que George Floyd sera encore en vie aujourd'hui. Donc, ils sont complices de ce meurtre-là, de ce qui s'est passé.
Tu sais, Valérie, les passants, on l'entend dans la vidéo. Je pense qu'ils l'ont dit au moins 100 fois, prenez son pouls. Il y avait une dame qui travaille pour le service des incendies, puis d'autres qui disaient, arrêtez, vous allez le tuer. Puis ils font rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de la drogue. Là. Le policier qu'on entend qui dit « Nous autres, on s'occupe, c'est à cause de nous que vos enfants ne prennent pas de drogue. » C'est à peu près le seul commentaire qu'il fait devant des gens qui n'en peuvent plus puis qui voient cette mort-là en direct.
Exactement. Puis lui, il disait, on l'entend dans la vidéo, et c'est à crever le cœur qu'il disait « Écoutez, je ne peux pas respirer. » I can't breathe. Il disait « Je vous m'étouffer. » Et en tout cas, je veux même pas... les images me hantent moi aussi encore aujourd'hui. Oh. Alors, il y a tout ça. Alors oui, je crois qu'il va y avoir des accusations. J'ai pas une boule de cristal, malheureusement, mais je me dis que dans les circonstances, il y aurait des accusations contre ces trois policiers-là. À voir c'est quoi la condamnation, ça reste à venir. Mais sachez que l'accusé principal a dû être transféré de prison parce qu'il y avait trop de grands risques pour sa vie. Donc, il était dans une prison en sécurité maximale et il devrait comparaître, lui, lundi prochain, le 8 juin. Alors, on va voir aussi s'il va avoir une déclaration, peut-être dire qu'il y a des remords. Il va peut-être s'exprimer aussi à ce moment-là. Donc, ça va être à voir là, quand il va comparaître cet homme-là.
Et les trois autres policiers sont en liberté. Apparemment, qu'il y en a un qui aurait même quitté la ville de Minneapolis. Donc, en liberté, pour tous ceux qui ont vu la vidéo, là, celui que vous voyez s'exprimer, puis les trois autres, on ne les voit pas selon un angle, mais avec les images des BC News, on voit qu'il y avait trois policiers sur George Floyd en passant. Il était trois sur son dos. Alors, eux sont en liberté. Alors que lui, George Floyd, je vous le répète, qu'on était en train de l'arrêter pour un faux billet de 20 $. Mais les policiers, eux
autres... Et cet après-midi, Non, j'allais dire cet après-midi, il y a une nouvelle autopsie qui est sortie, là, ça fait peut-être une heure. Cette autopsie indépendante, on dit que les autres policiers qui ont mis leurs genoux quand même pour le retenir sur son dos ont contribué à sa mort par asphyxie. Alors il y a vraiment une relation directement. Alors on dit qu'ils sont aussi responsables. Alors ça pourrait jouer en la faveur des procureurs pour porter des accusations rapidement. Mais les procureurs disent on veut faire les choses bien, on veut les faire comme il faut pour qu'après ça, ça tombe pas à l'eau en procès et qu'il y ait d'autres manifestations. Parce qu'en 92, Rodney King, je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'est fait battre à Los Angeles. C'était un Afro-Américain qui s'est fait battre par des policiers. Ça a été filmé et les policiers ont été acquittés. C'est au moment qu'ils ont été acquittés qu'il y a eu des manifestations là, incroyables. On en parle encore des années plus tard à Los Angeles. Et on veut aussi éviter qu'il y ait ça avec des accusations qui tombent pour les policiers. Donc, on veut bien faire le travail à Minneapolis.
Valérie Beaudoin, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci.
Merci, au revoir.
Bye, 16h34, vous l'avez peut-être remarqué, je vous avais dit au début de l'entrevue qu'on a eu des difficultés techniques. Alors, on a pu se parler, c'est correct, mais il y avait un délai, là.
Ouais.
Alors, si vous avez remarqué que il y avait...
C'est pas qu'elle savait pas quoi répondre.
Non, Valérie, elle répond rapidement, puis elle connaît ses affaires, là. Mais à chaque fois que je posais une question, c'est que ça paraît bizarre, peut-être pour les auditeurs. Je vous l'explique, on a eu un petit problème technique que nos techniciens vont régler. Alors, on arrive avec ça. Juste un petit commentaire en passant, puis il y en a ici aussi du racisme, il peut y avoir de la brutalité policière aussi, mais je l'ai même vu de la part d'Afro-Américains qui vivent ici au Québec, là, plein sur mes médias sociaux, puis tout, il y en a plein qui ont souligné, on est quand même bien ici.
C'est vrai.
C'est quand même l'organisateur là, d'un rassemblement à Québec, à qui je jasais plus tôt dans l'émission, l'a reconnu, il va manifester contre le racisme, puis en solidarité avec les gens aux États-Unis, même lui il dit, c'est moins pire ici. C'est honnêtement, aux États-Unis, de par leur histoire, tu sais, moi je dis souvent, si vous pensez qu'il n'y a pas de racisme aux États-Unis, rentrez dans une bibliothèque, là. Les livres sont là. Mm-hmm. Ils ont un passé, ils ont vraiment un passé raciste, un historique qui leur pèse encore dessus, mais qu'on en soit encore à ce point-là en 2020, c'est désolant. Et c'est surtout pas un reproche envers les manifestants, je veux pas que ça passe pour ça. Mais moi je constate, c'est dans la société en général. On est fort sur les symboles et les images. Par exemple, les manifestants, c'est pas mauvais ça, là, qui mettent le genou à terre pour imiter le geste de l'ancien joueur des 49ers, Colin Kaepernick. Ouais. Vous avez peut-être vu ça à Montréal puis ailleurs, les gens mettent un genou à terre. C'est correct, c'est pas violent, ils sont pas en train de détruire un commerce, c'est un beau geste, tu mets le genou à terre. Qu'importe ce qu'on pense de Kaepernick, là, on met ça de côté, là, ils sont pas sur un terrain de football pendant l'hymne national, ils sont dans la rue, ils font comme lui un genou à terre, on dénonce le racisme, c'est correct. C'est une image forte, ça fait des belles photos, les médias filment ça. Mais où est le discours? Où est Martin Luther King? Où est l'individu qui prend le micro puis qui arrive avec un rêve pour reprendre l'expression « I have a dream » de Luther King? Y en a-tu un? C'est sûr que ce sera pas Donald Trump. Oubliez ça.
Il y a pas
oubliez
beaucoup
ça, Donald Trump fera pas ça. Lui, c'est des tweets incendiaires, il insulte tout le monde.
Lock.
C'est pas le genre. Pas le genre de gars qui va se dire « Hey, on a un problème entre les Noirs puis les Blancs aux États-Unis. Il faut qu'on règle ça. Comment on fait pour se concilier, pour se parler, dialoguer? »
En fait, la division sert Donald Trump. Donald Trump, c'est carbure à la division.
On l'a dit en même temps. Alors, c'est pas lui. Alors, ça va être qui? C'est ça que ça prendrait un peu, parce que les marches, là, je veux bien qu'on marche pendant un mois de temps. Mais
ce sera pas Biden non plus, là. La dernière affaire imbécile qu'il a dit, c'est si un noir vote pour Trump, c'est pas un vrai noir, tu sais. On est pas, t'as 335 millions d'Américains, puis on se retrouve en novembre avec un combat entre Donald Trump et Joe Biden. Va savoir pourquoi. Mais c'est ces deux individus-là qui vont être encore dans les prochaines années à la tête du pays les plus puissants du monde.
Ah bah ça, les médias aident pas. Ça, c'est pour les politiciens. Les médias, on va se faire autocritiques. Je l'ai dit plus tôt, au Journal de Québec, un matin, ça a une, c'est quoi? Il y a une manifestation, 99,9% des gens à Montréal ont manifesté pacifiquement contre le racisme. Oui. La une du Journal de Québec, c'est saccage dans la ville. Il y était 15. Selon la police, c'est 15 à 20 individus, toujours les mêmes.
C'est ça.
Aucun rapport avec la manif, qui ont été volés des guitares chez Steve Music, comme si ça... Pensez-vous que ça empêche le racisme, ça, voler une guitare à Steve Music? C'est tellement débile, les casseurs, cons, mais, il reste que ça demeure, j'emploie quand même le mot, là, sur le plan historique, compte tenu de l'importance du... C'est anecdotique, là.
Oui.
Mais, Journal de Québec, il veut vendre de la copie. Ils veulent faire de l'argent. Et des images de pillage, c'est plus spectaculaire que des manifestants pacifiques. TVA Pirate Cannes, même affaire. En boucle, le pillage. Bon. Fait que ça, les médias sont aussi un peu un petit peu responsable. Est-ce que les médias favorisent la discussion aujourd'hui? Vraiment, les débats intelligents, je suis pas sûr. Les médias vont vers le spectaculaire, l'instantané, le cliché. En plus, il y a déjà une pauvreté chez les politiciens, on l'a dit tantôt. T'as des médias qui cherchent pas ça anyway, qui mettent pas ça en avant-plan. Ça donne quoi? Ça donne qu'on marche, on marche, mais ça prendrait de quoi au bout de la marche? Je sais pas si vous me suivez. À un moment donné, tu marches vers de quoi? Autrefois, c'était ça. En 68, les gens marchaient, ou en 67, ils allaient vers un grand orateur qui prenait le micro puis qui arrivait avec un plan, des idées. Ça prend des idées un peu, là.
Mais des géants d'histoire, ça sort pas d'une boîte de Cracker Jack, je sais. Sylvain, malheureusement.